France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand.
Et l'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Léa Salamé intervient dans 10 minutes. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Simone merci. Veil repose depuis hier donc au Panthéon après une cérémonie sobre d'une grande dignité qui a montré toutes les dimensions de la vie de cette femme d'exception depuis la déportation à Auschwitz jusqu'à la construction européenne, en passant évidemment par son combat pour les droits des femmes, à commencer par l'IVG. Vous étiez avec le gouvernement en place du Panthéon. Quels sentiments, Marlène Schiappa, vous ont traversé pendant cette cérémonie ?
D'abord, forcément, de l'émotion, mais ce que je retiens, c'est vraiment cette concorde. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des officiels, mais il y avait surtout une foule immense tout au long du trajet du mémorial de la Shoah jusqu'au Panthéon qui était amassée et qui applaudissait à tout rompre par moment toutes les phrases du discours du président de la République. Et j'y suis retournée l'après-midi, puisqu'il y avait la possibilité de rendre un hommage citoyen. Et de nouveau, la rue Soufflot était remplie et il y avait une file d'attente immense pour accéder au Panthéon, avec beaucoup de respect de la part de toutes les Françaises et les Français qui sont venus là pour rendre un hommage à Simone Veil et à tout ce qu'elle représente, parce qu'elle représente énormément de causes du XXe siècle.
Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous au poste où vous êtes aujourd'hui ?
Je crois que il faut avant tout, quand on est ministre et qu'on s'occupe soit de la santé, soit des droits des femmes, garder toute humilité et distance. Agnès Buzyn elle-même, qui est ministre de la Santé, a dit qu'elle n'aspirait pas à se comparer à Simone Veil. La marche est beaucoup trop haute.
Mais j'imagine qu'il y a des choses tout de même qui se regardent, s'observent et peut-être inspirent.
Mais elle est une inspiration. Il faut rappeler que maintenant, le fait qu'elle soit panthéonisée fait consensus, il y avait une large approbation dans l'opinion. Mais à l'époque, elle a mené souvent des combats très seule, elle était souvent en première ligne face à des oppositions très virulentes sur des sujets que l'on disait clivants à l'époque et qui font consensus maintenant.
Le président de la République a souligné qu'à travers Simone Veil, les déportés de France entraient au Panthéon, mais aussi les femmes et leurs souffrances, celles auxquelles Simone Veil a redonné leur dignité, leur liberté de disposer d'elles-mêmes, de disposer de leur corps. J'imagine que vous avez été particulièrement sensible à cet aspect-là du discours.
Complètement, il y a eu tout un passage vraiment magnifique du discours du président de la République, et d'ailleurs, dans les gradins, c'est à ce moment-là que ça a le plus applaudi, j'ai trouvé, parce que c'est extrêmement émouvant de dire justement, voilà, il y a des générations de femmes qui ont œuvré pour acquérir des avancées pour les droits des femmes, pour l'égalité femmes-hommes, qui n'auront pas d'hommage de la nation, qui resteront pour certaines dans l'anonymat. Et avec Simone Veil, elles entrent au Panthéon. C'est un hommage que la nation rend à Simone Veil, mais aussi à toutes ces femmes qui, avant elle, avec elle ou après elle, ont œuvré pour faire que l'égalité femmes-hommes devienne une réalité.
Alors que l'égalité des sexes pourrait être gravée dans le marbre de la Constitution, au frontispice de celle-ci, ne faudrait-il pas l'inscrire aussi dans le marbre du Panthéon et au frontispice de celui-ci, aux grandes femmes et aux grands hommes, la patrie reconnaissante? Est-ce que c'est un combat que vous pourriez mener? Est-ce qu'il est vain ou est-ce qu'il est très important?
Non, je pense qu'il n'y a aucun combat qui soit vain en matière d'égalité femmes-hommes. Moi, je pense d'ailleurs que souvent, on a tendance à vouloir décrédibiliser certains combats pour l'égalité femmes-hommes, notamment ce qui a trait à la sémantique, en disant que ce ne serait pas prioritaire, pas important, etc. Je pense que tout est prioritaire et on peut mener plusieurs combats de front.
Mais celui-là, vous allez le mener maintenant
alors,
ou pas?
Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler qu'il n'y a que 5 femmes qui sont au Panthéon. Simone Veil, c'est la 5e femme à entrer au Panthéon. Donc je crois que pour moi, le combat à mener, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes et effectivement qu'on utilise, alors gravé, je ne sais pas, mais qu'on utilise au moins l'expression effectivement aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, ça me semble souhaitable. Au demeurant, Simone Veil elle-même avait formulé cette demande auprès de François Mitterrand il y a quelques années de cela.
Quelle femme au singulier ou au pluriel, vous avez peut-être plusieurs noms en tête, aurait aujourd'hui sa place au Panthéon ?
Je ne me lance pas dans ce type
Olympe
de pronostic.
Olympe de Gouges,
par exemple, pourquoi pas. D'autres aussi.
Simone Veil, dernière question. Incarner la droite ou le centre droit humaniste, qui est une famille de pensée très importante dans la vie politique française. Dans quel parti aujourd'hui vit encore ce courant de pensée ?
Je suis pas sûre qu'elle incarnait la droite et le centre droit. Elle appartenait
je disais la droite humaniste.
Bien
qui
sûr,
est un courant
mais je crois que ce qui caractérise Simone Veil, c'est justement qu'elle transcendait aussi les partis. L'IVG, par exemple, a été la dépénalisation de l'avortement, plus exactement, a été votée à l'Assemblée nationale grâce aux voix de l'opposition de l'époque, donc la gauche. Lorsqu'elle a été élue à la présidence du Parlement européen, c'est aussi avec des voix venant de la droite et de la gauche. Donc, je pense que là, il serait trop facile maintenant de se lancer dans une forme de récupération ou de faire parler Simone Veil en disant elle soutiendrait tel ou tel, elle serait avec tel ou tel. Mais effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle voulait transcender les clivages politiques.
La meilleure contraception, c'est de fermer les cuisses. Si je vous fais mal, c'est parce que vous êtes trop grosse. Un stérilé à 28 ans, il serait plutôt temps de penser à un enfant. Voilà autant de citations tirées du rapport remis la semaine dernière sur les violences en gynécologie et en obstétrique. Avez-vous, on va entrer dans le détail des choses, mais déjà, avez-vous été sidéré par ce que vous avez lu? Parce que un rapport objective les choses et c'est pas le moindre de ses mérites.
J'ai pas été sidérée parce que je n'ai pas découvert la situation. Je vous rappelle que quand j'ai commandé ce rapport, il y a un an, la question de ce qu'on appelle, entre guillemets, les violences gynécologiques et obstétricales, qui n'est pas un terme forcément qui fasse consensus. Donc on a choisi un autre terme pour le rapport, pour ne pas stigmatiser les gynécologues et les soignants dans leur ensemble. Mais il y a un an, lorsque j'ai commandé ce rapport, il y a eu un tollé disant que c'était un sujet, c'était un sujet tabou qui se levait. Et le but de ce rapport, c'était justement d'objectiver cela, de mener une enquête, de mener des auditions en profondeur et de voir aussi, surtout, quelles solutions, quelles propositions on pouvait apporter pour mettre fin à cette situation.
Est-ce que vous partagez l'analyse de votre collègue Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui dit que, en substance, le paternalisme et une forme d'autoritarisme marquent encore les formations de ces médecins?
Oui, bien sûr. Je connais moins bien qu'Agnès Buzyn, puisqu'elle est médecin de profession, la formation qui se pratique. Et c'est pour ça que j'avais demandé au HCE d'auditionner et d'objectiver véritablement ce phénomène clairement. Mais manifestement, oui, il y a une forme de paternalisme qui ressort, sans doute d'une minorité de soignants, mais qui sont des faits, du coup, qui marquent les femmes, voire qui les traumatisent parfois, et auxquels on doit pouvoir mettre fin.
Est-ce que des femmes soigneraient mieux ces femmes?
J'en suis pas convaincue, moi. Mais après, c'est un vrai débat philosophique, mais moi, je suis pas sûre que les femmes soient exemptées de sexisme. C'est-à-dire que le sexisme est quelque chose de tellement présent dans notre société. Le président de la République lui-même dit que notre société est malade tout entière du sexisme. Il arrive que des femmes aient des comportements sexistes ou discriminants vis-à-vis d'autres femmes. Donc, je ne crois pas que ce soit en soi une solution, forcément.
Est-ce que les données type épisiotomie, césarienne, déclenchement vont être rendues publiques pour chaque maternité?
Alors, il y a plusieurs travaux qui sont en cours. J'ai rencontré des médecins qui, justement, faisaient état, notamment Israël Nizan, qui était opposé à la base à ce rapport et qui, là, a partagé avec moi un travail très important qui est en train d'être mené dans les maternités, justement sur les données, sur le recueil, sur la qualité. Il y a l'INSERM qui mène ce travail également en voulant l'objectiver de manière scientifique. Et puis nous installons avec Agnès Buzyn justement un groupe de travail pour faire en sorte de mettre en œuvre les propositions de ce rapport du Haut Conseil à l'égalité contre ce qui est appelé dans ce rapport les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical.
Ça pourrait prendre de quelle forme? Un certificat, un label, un site internet regroupant toutes les données?
C'est à discuter, justement, ce groupe de travail fera des propositions à cet égard.
Qu'est-ce qui peut faire opposition à une mesure de ce type qui semble être une mesure de bon sens?
Écoutez, moi je crois qu'il y a des soignants, c'est ce que j'ai pu observer dans les débats, qui ont pu se sentir stigmatisés. On m'a parlé de bashing de gynécologues, et ça n'est évidemment pas l'objet. L'objet, c'est comment on fait pour restaurer un lien de confiance, comment on fait pour faire en sorte que l'accouchement soit, sinon le plus beau jour de la vie d'une femme, ça me paraît un peu ambitieux, mais peut-être au moins quelque chose qui puisse se vivre sans traumatisme et dans un sentiment de respect, avec le plus de dialogue possible. Après, je comprends évidemment que les gynécologues soient parfois confrontés à une urgence et des choix à faire justement dans cette urgence, ne serait-ce que pour sauver la vie de la mère ou de l'enfant. Mais je crois qu'il faut faire en sorte justement que le corps des femmes leur appartienne et qu'elles puissent en disposer pleinement.
Une dernière question avant de donner la parole à Léa Salamé. Le 29 juin dernier, la semaine dernière donc, une femme a été tuée par son ancien conjoint en Alsace. Massacrée est le mot. Elle est morte après avoir reçu de très nombreux coups de couteau. Elle avait pourtant activé son téléphone Grand Danger, qui est un dispositif qui permet d'alerter tout de suite dans ce genre de situation. ans. Comment améliorer ce dispositif pour qu'une abomination pareille ne se reproduise pas?
C'est une vraie question et c'est à chaque fois quelque chose de terrible à chaque fois que cela se produit, et d'autant plus quand les politiques publiques étaient mises en œuvre. Parce que quand ça n'est pas le cas, on peut se dire on aurait dû détecter, on aurait dû agir, on aurait dû mettre en œuvre, l'équiper, etc. Là, manifestement, cette femme était équipée. Je pense aussi à Ouria, dont on a parlé, qui a été poignardée à Angoulême par son ex-mari, alors qu'elle était hébergée dans un centre et suivie. Elle avait réussi à quitter son ex-mari. Nous, on est en train de travailler sur l'amélioration du téléphone grave danger, mais l'amélioration, elle porte avant tout sur l'amélioration du financement, l'assouplissement des conditions pour qu'on puisse avoir plus de téléphone grave danger. Actuellement, il faut une décision de justice et ensuite, il y a une convention avec l'État et l'État seul peut le financer. Nous voulons assouplir cela.
Et après, une fois que la personne est équipée, comment améliorer le fonctionnement? Parce que là, c'est comment dire, ça s'est joué à quelques minutes.
Oui, complètement. On a installé la semaine dernière un groupe qui est chargé de justement faire des propositions à cet égard entre l'administration de l'égalité femmes-hommes et la justice, puisque ce sont les services de la justice qui prennent en charge le téléphone grave danger pour 900 000 euros par an. Mais je crois qu'il faut vraiment agir partout, c'est-à-dire sur le téléphone grave danger, mais aussi sur les dispositifs de repérage et de prévention. C'est pour ça qu'à partir de la rentrée, nous mettons en place dans chaque département, autour de chaque préfet, un contrat local contre les violences, avec des informations partagées entre la santé, les urgentistes, la justice, les procureurs, les forces de l'ordre, les élus locaux, les travailleurs sociaux, pour faire mieux circuler l'information et pour sortir ces femmes de chez elles et les protéger davantage jusqu'à ce qu'elles soient totalement en sécurité.
Marlène Schiappa est l'invitée de France Inter. Il est 8h33. Léa Salamé.
Marlène Schiappa, 10 mois après le scandale Weinstein et l'explosion des mouvements MeToo, Balance au port, etc., quel bilan tirez-vous? Est-ce que les choses ont vraiment changé pour les femmes? Est-ce qu'il y aura un avant et un après Weinstein à votre avis, ou au fond ça a été une éruption de fièvre, principalement dans le monde occidental, et tout est revenu à la normale?
D'abord, je ne crois pas qu'il y ait, je crois pas que la situation soit homogène. On dit dans le monde occidental, moi j'ai délocalisé mon cabinet à Trappes il y a un mois et demi, 2 mois de cela, et je suis intervenue auprès de collégiennes et de lycéennes, et j'ai demandé qui n'avait pas encore entendu parler de MeToo. Et toutes les jeunes filles ont levé la main. Il n'y avait qu'une jeune fille dans la classe qui avait entendu parler de MeToo.
Vous êtes en train de nous dire que Trappes n'est pas dans le monde occidental?
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas dire que l'intégralité du monde occidental aurait vécu une révolution formidable et que d'un coup, il n'y aurait plus d'agressions sexuelles et plus de viols envers les jeunes femmes grâce à MeToo. Je suis en train de vous dire que c'est une sorte d'appel à l'humilité, mais pour moi, la première. Ça veut dire que les politiques publiques que nous menons, il y a des endroits où elles sont efficaces, efficientes, il y a des endroits où parfois elles ne passent pas le mur du son. Et il faut y aller d'autant plus. Là, peut-être parce qu'elles sont jeunes, ce n'est pas forcément le fait que ce soit à Trappes, mais je pense que d'abord, notre enjeu, c'est cette prise de conscience et poursuivre cette prise de conscience. Je ne crois pas que la situation allait changer en 10 mois. Je pense en revanche que désormais le sujet est sur la table et que les actions que nous menons, elles se verront et nous diront si c'était un tournant historique ou pas, au-delà de plusieurs années, à mon avis.
Il y a de plus en plus de voix qui se font entendre sur la crise de la masculinité, le grand malaise des hommes qui se sentent déclassés par la révolution féministe et qui se manifestent par des retards à l'école pour les jeunes garçons, par une grande immaturité où il y a une démission devant les responsabilités, on donne tout aux femmes, et par une misère sexuelle ou alors une addiction au porno, c'est la même face d'un même symptôme. Qu'en pensez-vous, Marlène Schiappa? Est-ce que vous reconnaissez le grand malaise des hommes?
Moi, je pense que l'objet de l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas de se dire on va s'occuper des femmes, de leur libération, de leur bien-être, etc. Et peu importe les hommes. Je crois que l'enjeu de l'égalité femmes-hommes, c'est comment faire pour qu'on ne soit pas assigné à une identité de genre, avec les stéréotypes de genre qui vont avec, femme ou homme. Par exemple, quand j'entends dire à un petit garçon, un garçon ça ne pleure pas, tu es un garçon donc tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, etc. Je suis tout autant affligée que quand j'entends dire à une petite fille, tu dois bien te tenir parce qu'une petite fille doit être jolie. Donc je crois que l'enjeu c'est collectivement, comment on fait pour que chaque personne, femme, homme, puisse se sentir bien et non assignée à un certain nombre de stéréotypes de genre.
Nancy Houston, la romancière, parle de virilité vrillée. Elle dit « Je trouve qu'on demande l'impossible aux hommes. On leur demande d'être fort et faible, dur et attentionné, puissant et sans pitié dans le monde du travail et doux comme des agneaux à la maison. C'est impossible. »
Bien sûr, mais ce sont les injonctions contradictoires, les fameuses que les femmes vivent depuis quelques siècles et qui ressemblent à peu près à cela. Virginie Despentes le disait aussi dans King Kong Theory, elle disait qu'elle voulait se battre pour les femmes qui veulent être fortes, mais tout autant pour les hommes qui pleurent chez eux le soir quand ils sont seuls ou qui ont le sentiment de ne pas arriver à rentrer dans ces codes de la virilité. Mais je crois que c'est aussi, toute crise est une opportunité, et je crois que c'est aussi une époque passionnante où l'on a la possibilité justement de redéfinir ce qu'est la virilité,
ouais,
la féminité
époque
et
passionnante,
dans quel moment
mais
on en a besoin.
Est-ce que le risque, c'est pas la revanche des hommes à la manière d'un Donald Trump qui est et qu'il s'est vendu comme ça et qui a gagné pour ça aussi le symbole des White Angry Men.
Alors ça c'est quelque chose que j'entends souvent comme contre-argument de nous dire attention si les femmes obtiennent trop de droits, arrivent à se faire payer autant que les hommes à compétences égales, réclament le fait de ne pas être agressées, violées, etc. Peut-être les hommes vont se sentir stigmatisés et voudront se venger. Je trouve que c'est absurde et que c'est une rhétorique qui vise à renverser la domination. Actuellement la domination c'est une domination masculine. Ce sont les hommes qui sont plus payés, qui font moins de tâches ménagères que les femmes, etc. etc. C'est cela qu'il faut renverser, non pas pour arriver à une domination inverse, mais pour arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement.
Allez, on part au standard de France Inter, 01 45 24 7000, intervenez. Bonjour Anne. Vous êtes là? Non, vous n'êtes plus là. Anne, je retente. Carole, est-ce que Carole est là?
Oui monsieur, je suis là.
Eh bien bonjour, soyez la
bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Je voudrais savoir si des pistes sont actuellement en recherche en ce qui concerne ces femmes qui arrêtent de travailler pour élever des enfants et qui, ayant moins cotisé, ont une retraite moins importante.
Merci pour cette question. Marlène Schiappa.
Oui, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et préoccupant. Et effectivement, nous sommes en train d'y travailler avec Jean-Paul Delevoye, qui est le haut commissaire chargé de la réforme des retraites. Il y a tout un volet de prise en charge sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'en profite pour dire qu'il n'est pas question de supprimer les pensions de réversion, parce que cela a été dit à un moment. Mais effectivement, le fait de permettre à des femmes qui se sont arrêtées de travailler à un moment et qui sont donc sorties du système de cotisation de pouvoir bénéficier d'une retraite pour ne pas être sous le seuil de pauvreté à la retraite, comme on le voit trop souvent, c'est une priorité. Je rappelle qu'en France, il y a 37% d'écart de montant de retraite entre les femmes et les hommes. C'est supérieur à la moyenne européenne. Donc, c'est une urgence, évidemment.
Allez, on repart au standard. Bonjour, Gaëlle.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Gaëlle.
Bonjour. Je voulais poser une question à Marlène Schiappa. Aurait-elle le courage de s'attaquer aux fabricants de tampons et serviettes périodiques pour imposer la composition de leurs produits? Parce que c'est une des seules choses qu'on achète en supermarché où il y a zéro élément sur la composition.
Merci Gaëlle pour cette question. Marlène Schiappa vous répond.
C'est une question extrêmement intéressante et qui fait, encore une fois, c'est encore une fois un sujet complètement tabou, comme beaucoup de choses qui ont trait au corps des femmes et qui restent en dessous des radars des politiques publiques. Mais c'est effectivement un sujet de préoccupation sur lequel nous allons travailler à partir de la rentrée, avec notamment quelques associations qui mènent un travail là-dessus, et plus généralement contre les perturbateurs endocriniens qui sont encore beaucoup trop présents dans beaucoup trop de produits, et particulièrement dans les produits d'hygiène intime, en effet.
Allez, on retourne au standard. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour Madame Schiappa.
Bonjour.
Le titre de votre livre récent, Le deuxième sexe de la démocratie, s'inscrit dans la lignée d'un héritage féministe, d'un nécessaire, indispensable héritage féministe. Je voulais savoir si le titre de votre prochain bouquin pourrait s'intituler « Les deux sexes de la démocratie » pour s'inscrire désormais dans une action d'égalité entre les femmes et les hommes.
Merci Laurent pour cette question. Marlène Schiappa.
Merci et merci d'avoir la gentillesse de citer un de mes derniers livres. Le deuxième sexe de la démocratie, en fait, c'était un croisement entre le livre « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir et le livre d'Alexis de Tocqueville sur, qui s'appelle « De la démocratie en Amérique » puisque ce sont des analyses croisées sur la place des femmes dans la démocratie. Or, à l'heure actuelle, le genre qui est discriminé dans la vie démocratique, ce sont les femmes. Je rappelle que sur la totalité des maires en France, il n'y a que 16% des maires en France qui sont des femmes. Nous avons réussi à féminiser l'Assemblée nationale parce que Emmanuel Macron a eu cette volonté d'investir sur une circonscription gagnable sur deux une femme, et nous avons réussi à dépasser les 40%, mais jusqu'à présent il n'y avait que 22% de parlementaires qui étaient des femmes. Donc il reste encore des progrès à faire pour arriver à cette égalité et à ces deux sexes égaux dans la démocratie.
Léa Salamé.
Il me semble que vous avez aussi écrit un livre sur la laïcité. La République En Marche semble se diviser sur cette question-là. En témoigne l'opposition de plusieurs dizaines de députés En Marche à la volonté du gouvernement de retirer les associations religieuses de la liste des lobbies. Vous, à titre personnel, vous en pensez quoi de retirer les religions de la liste des lobbies ?
Moi, je pense que ce n'est pas un sujet sur lequel on se divise, c'est un sujet au contraire sur lequel on débat. Ce qui caractérise La République En Marche par rapport à d'autres partis, c'est qu'il n'y a pas une ligne descendante. Nous ne sommes pas dans un mouvement pyramidal, autoritaire, dans lequel on vous dit « la ligne du parti, c'est ça, vous devez tous penser comme la ligne du parti ». Au contraire, nous construisons
Marlène Schiappa, pardon,
nos lignes.
Ça, c'est la com. Beaucoup de députés, j'en témoigne personnellement, beaucoup de députés de votre parti nous l'ont dit, me l'ont dit clairement que sur la laïcité, il y a deux lignes qui rentrent vraiment en conflit, que c'est pas juste ton débat, il y a un vrai affrontement de lignes. Alors, moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça, du retrait des associations religieuses.
Pardon, je ne suis pas d'accord avec le constat et je vous explique pourquoi. Nous sommes un parti dans lequel il y a du débat sur tous les sujets, pas uniquement sur la laïcité. Vous avez raison de rappeler que la laïcité, c'est un sujet sur lequel je suis engagée, qui me tient à cœur. Je crois qu'il est profondément lié aux questions des droits des femmes. Mais comme sur tous les sujets, il y a un débat qui part de la base, qui se fait avec plusieurs lignes qui peuvent coexister, qui peuvent cohabiter, et ensuite nous définirons une ligne, mais nous sommes un mouvement jeune qui a
votre avis
à peine
sur
deux ans.
Le retrait des associations religieuses de la liste des lobbies.
Alors, moi, je me suis fait une règle absolue qui est de ne pas donner ma position personnelle sur des débats qui concernent l'Assemblée nationale. Je ne suis pas parlementaire, je n'aspire pas à l'être, c'est la prérogative.
Vous n'avez pas d'avis sur cette question-là.
J'ai des avis, je respecte la démocratie, la séparation des pouvoirs, et en l'occurrence, là, ça appartient aux parlementaires.
Madame la secrétaire d'État, merci Marlène Schiappa, a été au micro de France Inter ce matin.